Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Belinda Bosuma.
À la une, cette manifestation des partis politiques et certains groupes de la société civile hier à Kinshasa y réclamaient la libération des opposants et activistes arrêtés injustement selon eux. Un mémorandum a été déposé auprès du ministre de la Justice. Les FARDC accusés de tracasseries sur les routes situées entre les territoires de Mwenga et Walungu dans le sud Kivu. Ces éléments exigeraient 1000 francs congolais à chaque passant. Cela dure depuis 2 semaines, dénonce la population locale. Et puis, l'invité de ce matin, Sami Adubango, vice-ministre de la Défense nationale, en mission en Ituri, il s'exprime sur la situation sécuritaire dans cette province, ainsi que sur la collaboration entre les FARDC et les soldats onusiens dans la protection des civils. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par Kinshasa. Des partis politiques et certains groupes de la société civile ont manifesté hier devant le palais de justice à la Gombe. C'est pour réclamer la libération des opposants et activistes arrêtés injustement selon eux. Parmi ces opposants figure Seth Kikuni, président du parti politique Piste pour l'émergence. Un mémorandum a été déposé auprès du ministre de la Justice. Aucun incident n'a été signalé au cours de ces manifestations. Reportage d'Étienne Lissou.
C'est dans cette ambiance que la manifestation des opposants s'est déroulée ce mercredi devant le palais des justices. Des partisans de plusieurs partis politiques, notamment LGD, Ensemble et SID, Ados Nomasi du parti politique Orange.
Le recours à l'ANER, à la DEMIA pour perpétrer les arrestations et des détentions des figures politiques de l'opposition, des activistes de la société civile et des acteurs de médias trahit une dérive autoritaire manifeste de votre gouvernement.
Pour sa part, Gabriel Moussafiri, chargé de communication des pistes pour l'émergence, les Seth Kikuni demandent la libération immédiate des opposants politiques arrêtés arbitrairement.
Nous sommes contre la violation des droits fondamentaux des Congolais, surtout des opposants de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi-même, j'ai été arrêté avec le président Seth. 3 jours après, j'ai été libéré. En tout cas, pourquoi museler l'opposition jusqu'à ce point? Nous disons non à cela, nous refusons catégoriquement.
Commencé à 9h heure de Kinshasa, le sitting du palais de justice s'est terminé vers midi et aucun incident n'est à déplorer selon la police nationale.
Sud Kivu, je vous l'ai dit dans les titres, les usagers de la route Ngando-Kibanda vers Luntuku, reliant le territoire de Mwenga et Walungu en traversant la rivière Ulindi, sont victimes de la barrière payante érigée par les FARDC. Ces éléments tracassent la population en exigeant 1000 francs congolais à chaque passant. Cela fait 2 semaines que ces usagers font face aux tracasseries à cette barrière. La population de Mwenga dénonce cette situation et demande la levée de cette barrière. Rachel Kiesse nous en dit plus.
Cette barrière est érigée à Kibanda, au poste de contrôle d'impôt de la chefferie de Basile dans le territoire de Mwenga. La société civile de Mwenga dénonce cette action, indiquant que c'est en violation de la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et du gouvernement provincial interdisant des barrières payantes en RDC et donc au sud Kivu également. Lungele Itebo Samuel, président de la société civile territoriale de Mwenga.
Ça fait 2 semaines que la population d'Axe, Balobola, Bizalugulu et Bashimwenda 2 est victime d'une barrière payante érigée par les FARDC. Nous demandons à nos autorités locales et les commandants régiments 3306 régiment de lever cette barrière érigée et nous demandons aussi à notre population d'être vigilants et d'alerter les autorités de la place et aussi la société civile en cas de tracasserie en cours de route.
Signalons que ces éléments FARDC étaient basés au site minier de Kitota dans le groupement de Balobola avant d'ériger cette barrière à Kibanda. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Kapi.
Du côté de Beni, au Nord Kivu, une pléthore des services étatiques s'observe à la barrière de la Direction générale des recettes du Nord Kivu, située à la limite entre le territoire de Beni au Nord Kivu et celui de Mambasa en Ituri, sur la nationale numéro 44. Les usagers de cette route crient aux tracasseries orchestrées par ces différents services et demandent l'implication des autorités. Le bourgmestre de la commune rurale de Mangina appelle la population à l'apaisement et promet de décanter la situation. Marc Marofimbo, reportage.
Le poste de pêche de la Direction Générale des Recettes du Nord Kivu, implanté à Mangina, est devenu le passage obligé de tous les véhicules qui relient le territoire de Mambasa à Ituri, aux provinces de la Tchopo et du Haut-Tuélé. Cela depuis les attaques des ADF sur la route nationale numéro 4, notamment sur le tronçon Beni-Komanda. Cependant, les usagers dénoncent la présence d'une pléthore de services étatiques à cette barrière. Il s'agit notamment de la CNPR, Commission Nationale de la Prévention Routière, du Bureau des Transports et Communications, TRASCOM, de la Cellule des Crimes Économiques, de l'OBLC, une structure de lutte contre la corruption, des mines et industries, du service de l'environnement, mais aussi des impôts de l'entretien routier. À cela s'ajoutent les services des renseignements militaires dont les T2, DSF, FRDC et la PNC. Des conducteurs de motos se plaignent de devoir débourser une somme de 1000 francs pour chacun des services sans quittance. Les efforts fournis pour avoir la réaction des autorités territoriales à ces sujets sont restés vains. Toutefois, le bourgmestre de la commune rurale de Mangina dit être au courant de cette situation. Roki Kakule Muvunga affirme avoir fait remonter ses plaintes aux autorités compétentes. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Restons à Beni. Un objet semblable à un engin explosif abandonné traîne depuis un mois dans le quartier Sayo, dans la commune de Moulekera, une situation qui inquiète la société civile communale qui dit avoir déjà alerté toutes les autorités et les experts en déminage. Depuis lors, déplore cette structure citoyenne, en dehors du marquage du site et de l'inscription danger de mort, plus rien n'a été fait jusqu'ici. Joseph Sabouni, président de la société civile de la commune Moulekera, exprime sa crainte au micro de Guylaine Kassassia.
Par rapport à la situation d'un entier semblable d'une bombe qui se trouvait au niveau du quartier Sayo, c'est l'île Tuhakaina. Cette question avec les autorités depuis la semaine passée, on l'a discuté avec les chefs de base au niveau de la parade et jusqu'à maintenant, sa suite. Maintenant, la population est en train de se demander pourquoi ce truc traîne là-bas, parce que une fois que c'est une bombe, si ça éclate, ça risque de faire tort à la communauté. Nous appelons les services habilité de faire le mieux, d'aller désinstaller ces trucs, soit de nous dire que ce n'est pas une bombe, pourvu que la population circule là-bas librement. Nous appelons aussi la population qui fréquente ces milieux d'être très très prudente, parce que si c'est une bombe, il y a risque d'éclater.
En réponse, le service de lutte anti-mine de la MONUSCO, UNMAS, dit être au courant de la situation. Après le marquage du site, leurs équipes étudient les mécanismes d'intervention compte tenu de la complexité de l'engin, ajoute-t-il. À Kalemi, signalons l'arrestation mercredi d'une dizaine d'ex-agents de l'ancienne société Filtisaf. La police a empêché une manifestation prévue par ces ex-agents qui voulaient exprimer leur mécontentement au sujet de la situation qui prévaut au sein de cette société. Ils accusent la chef de division provinciale de l'habitat du Tanganyika de gérer les biens de la Filtisaf sans qualité ni mandat. Rappelons que cette société basée à Kalemi est tombée en faillite depuis mars 1991. Plus de détails avec Paulin Munanga.
D'après les manifestants, outre les arrestations, il y a eu quelques blessés au cours de l'opération de la police pour empêcher la manifestation. Notons cependant que les manifestants ont réussi à lire leur mémorandum devant la presse ce mercredi. Ces ex-agents de la société de filature et tissage africain Filtisaf accusent la chef des divisions provinciales de l'habitat Bébé Madanganyo de vendre des parcelles qui appartiennent à la Filtisaf sans droit ni qualité et ni compétence. En outre, les ex-agents de cette société l'accusent d'octroyer des parcelles illégalement à certaines autorités de la ville de Kalemi. Ils la reprochent aussi de percevoir des frais de loyer des maisons de la Filtisaf destinés au traitement des agents commis à la maintenance du patrimoine de la société. Radio Okapi n'a pas pu joindre la chef des divisions provinciales de l'habitat du Tanganyika. Dans un communiqué officiel du 24 septembre, Bébé Madanganyo appelle tous les ex-agents, enfants et veuves des ex-travailleurs décédés de la société ex-Filtisaf de libérer les maisons qu'ils occupent dans un délai de 72 heures. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Cap sur New York, l'achèvement de la première étape du programme de développement local des 145 territoires s'est invité aux discussions mardi entre le gouvernement congolais et le programme des Nations Unies pour le développement, représenté par les ministres du plan Guylaine Nyembo et celui des finances Doudou Fouamba. La partie congolaise a voulu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux dans le cadre du PEDEL 145 territoires mis en œuvre par le PNUD. Michel Kifindangoy.
Au cours de cet entretien, le ministre des Finances a fait part à la directrice de PNUD les exigences du gouvernement congolais dans le cadre de ce partenariat. Il s'agit entre autres d'accélérer la finalisation des ouvrages restants avant le 31 décembre de l'année en cours, avant de lancer le deuxième volet du programme, principalement centré sur les routes des dessertes agricoles. Pour sa part, la directrice du PNUD a rassuré les autorités congolaises de la volonté et de la disponibilité de son institution à accompagner le projet visant à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. À ce jour, il convient de préciser que le taux d'avancement des travaux exécutés par le PNUD s'élève à plus de 84%. Il faut noter que le premier volet de PEDEL 145 territoires concerne la construction, la réhabilitation et l'équipement des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs ainsi que la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Au terme de cette réunion, les autorités congolaises ont annoncé l'organisation d'une table ronde axée sur les investissements à laquelle seraient conviés les bailleurs des fonds et les investisseurs du secteur privé.
Revenons au pays, précisément dans le Maniema. Le comité provincial de coordination et de suivi du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR en sigle, a validé mardi à Kindu le plan de travail et budget annuel PTBA 2025. C'était au cours d'un atelier qui a réuni toutes les parties prenantes. La validation du PTBA 2025 permettra à PADRIR d'exécuter toutes les activités prévues toute l'année, dont la réhabilitation des infrastructures routières. Florence Kiza, reportage.
Le coût global estimé à ces PTBA 2025 est autour de 12 millions de dollars américains, selon le coordonnateur provincial. Alphonse Mata explique à quoi servira cet argent.
Le coût global que nous avons estimé pour ce PTBA 2025 est autour de 12 millions de dollars. Si c'est validé, là, ce n'est qu'un chiffre, ce n'est qu'un nombre, mais derrière cela se trouve une déclinaison de plusieurs activités à réaliser pendant toute l'année. Donc, cette validation-là, au niveau national, au niveau du comité de pilotage et au niveau du bailleur, par une non-objection qui permettra à ce que nous puissions commencer l'exécution de toutes les activités prévues à ce niveau-là.
Pour le gouvernement provincial, c'est une satisfaction totale. Hassani Somoué, ministre de l'Agriculture.
C'est une grande joie pour le gouvernement provincial de constater au jour d'aujourd'hui, par l'initiative de passer à la validation du programme PTBA 2025. Et cela va nous permettre de pouvoir maintenant réaliser des grandes actions dans le secteur agricole ainsi qu'à des routes de cette agricole.
Sachez que cette proposition sera soumise au niveau national pour non-objection. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, une délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, séjourne en Mbujimayi depuis mardi en provenance de Kinshasa. D'après la chargée du genre et inclusion à IFES, le but de la mission est de faire une évaluation sur le processus électoral précédent avec les parties prenantes afin d'identifier les forces et les faiblesses et proposer des pistes de solutions pour améliorer les échéances électorales de 2028 en RDC. Cette mission rentre dans le cadre du programme d'intégrité territoriale électorale, en appui technique à la CENI, financée par l'USAID. On écoute à ce sujet Maître Evelyne Moulengabo, chargée du genre et inclusion à IFES. Elle est au micro d'Esther Ndalafina.
Nous sommes venus d'abord ici à Mbujimayi, c'est pour essayer d'échanger avec les leaders locaux et certaines institutions sur cette question électorale. Nous devons faire une évaluation parce que chaque processus nécessite une évaluation. Et donc, nous avons passé les élections en décembre 2023 et même les élections indirectes. Vrai, tout n'est pas fini, mais au moins, il y a la grande partie qui a été faite. Et donc, nous avons dit qu'il serait quand même mieux que nous puissions échanger pour essayer de voir quelles ont été les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités par rapport aux élections pour améliorer les élections futures en 2028 ou améliorer les processus en soi, tous les cycles électoraux, aussi vrai qu'il y a la démocratie en RDC. Pour le moment, étant donné que la CENI a travaillé dans l'amélioration ou la promotion de l'inclusion dans les processus électoraux, nous nous sommes dit que nous allons cibler les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones pygmées, puisque ce cycle électoral, ça a été une première de voir que cette catégorie s'est vraiment, vraiment donnée et participée activement à ce cycle électoral.
Actualité internationale. Au Soudan, l'épidémie de choléra se propage. Le ministère soudanais de la Santé rapporte plus de 430 morts au cours du mois dernier, à mesure que la guerre civile continue de ravager le Soudan. Dans un communiqué officiel, les autorités ajoutent que le nombre d'infections s'élève désormais à environ 14 000 cas. Le conflit armé rend l'acheminement des traitements vers les zones touchées extrêmement compliqué, indique l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan. L'UNICEF a récemment indiqué que ce pays est confronté à des multiples épidémies dont le choléra, le paludisme, la dengue, la rougeole et la rubéole, estimant que 3,4 millions d'enfants de moins de 5 ans sont exposés à un risque élevé des maladies épidémiques du fait de la guerre.
L'invité.
Il s'agit du ministre, vice-ministre de la Défense nationale. Sami Adoubango est en mission depuis 4 jours en Ituri. Il s'exprime notamment sur la situation sécuritaire dans la province ainsi que la collaboration entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO. Il est avec Martial Papi Mukeba.
Sami Adoubango, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce qui justifie la résurgence de la violence des groupes armés à Ituri?
La réponse est simple. Si vous voyez bien, la situation sécuritaire de l'Ituri, c'est lié à ces groupes armés d'origine iturienne. Et c'est très difficile pour qu'aujourd'hui, quelque chose dont on connaît très bien sa racine et une racine locale puisse avoir fin si et seulement si on ne s'implique pas ou on ne s'approprie pas cette situation sécuritaire. Étant donné que ce sont les fils du terroir, les fils de la province, il y a des causes intrinsèques et des causes extrinsèques. Causes intrinsèques, dans le contexte actuel, ce sont les notables communautaires et aussi nous, les leaders politiques, qui devront être une source d'ouverture et une source de sortie de la crise que nous sommes en train de connaître aujourd'hui en Ituri. Tant que nous ne prenons pas la responsabilité de s'engager à sensibiliser le nôtre et à dire franc ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon, rien ne va marcher.
Et quelles mesures les ministères de la Défense comptent-ils prendre pour sécuriser les camps de déplacés de Plaine-Savo et Lala récemment ciblés par les attaques des groupes armés?
Toutes les dispositions sont en train d'être prises, bien sûr, avec l'accompagnement aussi de la MONUSCO qui ne cesse d'accompagner l'armée. Ils travaillent en étroite collaboration et ça, je salue à part ça. Il y a d'autres dispositions que nous sommes en train de prendre et de renforcer davantage nos voyants militaires en effectif et aussi en matériel. Et il y a d'autres dispositions que je ne saurais pas vous dire sur votre micro. Bref, mon retour à Kinshasa pourra être l'objet d'un rapport détaillé sur certaines dispositions que nous devons prendre par rapport à ce que j'ai à constater sur terre.
Exactement, comment vous évaluez la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC pour protéger les populations civiles et notamment des camps de déplacés ici en Ituri?
La collaboration entre la MONUSCO et nos voyants militaires sur terrain est le résultat de la mise en application du partenariat entre la MONUSCO et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de montrer, depuis le lundi, la MONUSCO nous a donné les moyens logistiques. On est allé à Boulé, on est allé à Lala, on est descendu à la plaine Savo et aujourd'hui je suis avec la MONUSCO ici. Ça dénote cette franche collaboration et ce partenariat qui nous lie. Et ça montre clairement que les relations sont au beau fixe. Et c'est comme ça que, même maintenant, là, je viens de féliciter le commandant de la MONUSCO qui contrôle Magui et tous les autres axes de cette bonne collaboration avec même l'administrateur du territoire. Bref, en tout cas, il y a de très bonnes relations, de très bonnes collaborations que nous continuerons à saluer tant que la MONUSCO est encore sur notre sol congolais.
À Boulé, la société civile a dit et les déplacés que, limite était l'intervention de la MONUSCO, les CODECO pourraient même tuer environ 100 déplacés.
La MONUSCO vient en appui. La responsabilité directe de sécuriser la population congolaise et ses biens revient à la République démocratique du Congo. Comme un partenaire, et dans la plupart des cas, lorsqu'il y a par exemple des attaques, nos voyants militaires, ils interviennent au même moment avec les contingents de la MONUSCO, c'est vrai. Et selon les informations en ma possession, quand nos voyants militaires, ils ont intervenu au même moment avec les contingents bangladeshis d'ailleurs. Et moi, j'ai beaucoup salué et nous continuons à les encourager à évoluer sur cet angle-là.
Dernière question, quelles actions sont prévues pour faire face aux groupes armés qui, malgré leur engagement à déposer les armes dans le cadre des accords de paix signés il y a quelques mois, continuent d'exercer la violence en Ituri?
En dehors de ce que le gouvernement doit faire, moi, je pense que par rapport à la situation de l'Ituri, étant donné que la cause est iturienne aussi, il fallait que les Ituriens se lancent dans la sensibilisation réelle et vraie pour que leurs fils égarés, pour que nos frères qui ont pris les armes les déposent. Deuxième point, c'est le gouvernement congolais qui a toutes les options sur la table. Il y a l'option politique, il y a l'option militaire et il y a l'option diplomatique. L'option militaire, d'ailleurs, depuis avant-hier, il y a des opérations qui s'effectuent sur terre. En plus de ça, il y a d'autres interventions qui pourront venir d'un moment à l'autre pour mettre définitivement tout ce que nous sommes en train de connaître en Ituri.
Samy Adubangou, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Le vice-ministre de la Défense nationale répondait aux questions de Martial Papi Moukeba. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.